Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Amandine Bégaud. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Au menu aujourd'hui, cette panne qui a touché nos services d'urgence, le 15, le 17, le 18, difficilement accessible pendant plusieurs heures. A priori ce soir ça va mieux. Tout est-il vraiment réglé? Comment expliquer cette panne? Y a-t-il eu défaillance, négligence? On posera la question au patron d'Orange, Stéphane Richard, qui sera notre invité tout à l'heure à 18h15. Il a choisi RTL ce soir pour s'expliquer. Bonsoir Aude Vernuccio.
Bonsoir Amandine, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres de l'actualité de ce jeudi 3 juin.
Cette tentative de féminicide à Metz, un homme a poignardé sa femme avant de lui tirer dessus cet après-midi en pleine rue. Un nouveau dispositif pour éviter de gaspiller des doses de vaccins. En quelques minutes, vous saurez si vous avez des anticorps du Covid. Et puis le cauchemar à Roland-Garros, trois Français encore en lice après la défaite de mon fils.
À 18h30, comme tous les jeudis, c'est l'œil de Philippe Cavrivière. Et puis à 18h40, une femme qui force l'admiration. Dominique Loiseau, la veuve de Bernard Loiseau, elle publie La revanche d'une femme chez Michel Lafon. Une sacrée leçon de vie, vous le verrez. La météo. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Amandine, bonsoir à tous.
Bon, ce sera bien bien perturbé demain.
Oui, surtout des Pyrénées à la Normandie. Le matin, entre le sud-ouest et les frontières du nord, l'après-midi, le temps sera bien pluvieux, orageux. On attend de forts cumuls de pluie, surtout l'après-midi. Et de part et d'autre, un temps plus sec, plus clément, même bien ensoleillé, surtout en Bretagne et entre PACA et Corse. Tout ça sous des températures qui vont baisser à l'ouest, mais qui seront encore très élevées à l'est, de 17 à Biarritz à 30 à Grenoble et 23 à Paris.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Une scène hors norme cet après-midi à Metz. Un homme a poignardé sa compagne en pleine rue et en plein jour avant de lui tirer dessus. Il a ensuite retourné l'arme contre lui. Scène glaçante, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Samuel Goldschmidt, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, cela s'est passé avant 14h, à l'heure où les parents reviennent d'emmener leurs enfants à l'école proche du trottoir où s'est passée l'agression, avec un homme livré à sa fureur meurtrière qui agit en pleine rue sans aucune considération pour ce qui l'entoure. Nous avons retrouvé le voisin qui a filmé la scène à quelques mètres.
Plusieurs cris, appelez la police, aidez-moi, aidez-moi. Et j'ai vu une femme au sol, il lui mettait des coups. Et ensuite, il est parti. Il est parti sur l'autre trottoir. Et je pense personnellement qu'il a vu la police au loin, il a attrapé peur. Il est revenu en courant et il a commencé à l'insulter de tous les noms. Il l'a mis contre le camion, il l'a poussé au sol et il lui a tiré deux balles je ne sais pas où et lui il s'est tiré dans la tête. Il n'a pas hésité. Au début il a hésité parce qu'il braquait tout le monde au fur et à mesure. Je pense qu'il a hésité au début, mais quand il est revenu la seconde fois, il n'a pas du tout hésité. Je pense qu'il a vu la police au loin. Il n'a vraiment pas hésité, il a tiré sur elle et sur lui-même.
Effectivement, la police est arrivée littéralement au moment des tirs car l'agression du mari avait commencé plusieurs minutes avant dans l'immeuble voisin et des riverains qui ont entendu les cris ont immédiatement prévenu les secours. À l'heure qu'il est, selon des sources policières, le pronostic vital de la victime n'est plus engagé. L'agresseur, lui, est dans un état désespéré.
Samuel Goldschmidt à Metz pour RTL. Autre scène inhabituelle à Roissy après une menace anonyme. Un Boeing 787 d'Air France a été escorté par un avion de chasse de l'armée de l'air. Un vol faisant la liaison entre N'Djamena, la capitale du Tchad, et Paris. Les passagers ont été évacués pour une suspicion d'explosifs à bord. L'appareil a été fouillé et immobilisé. Pas d'explosifs à bord, on l'apprend à l'instant.
18h03 sur RTL, on en vient à cette question. Que s'est-il passé hier sur le réseau Orange?
Impossible hier soir d'appeler les numéros d'urgence du SAMU, de la police, des pompiers dans plusieurs régions. Le PDG d'Orange parle d'une défaillance logicielle dans des équipements critiques de réseau. Alors ça, c'est le jargon technique. Très concrètement, on compte au moins 3 victimes de ce dysfonctionnement à Gatlandais.
Oui, à commencer par un homme de 63 ans près de Vannes dans le Morbihan. Son épouse a tenté plusieurs fois de joindre le SAMU, mais aussi le 112, le numéro d'urgence européen. Sans succès, elle décide finalement de conduire elle-même son conjoint à l'hôpital, dans sa voiture, et à son arrivée, il était en arrêt cardiaque. Le directeur du centre hospitalier de Vannes, Philippe Couturier, au micro RTL de Nicolas Bobby.
Tout a été fait dès l'arrivée du patient aux urgences pour tenter de réanimer le patient. Cette tentative de réanimation a été vaine, mais il y a une enquête administrative en cours et je souhaite saisir le procureur de la République de cet incident afin que toute la lumière puisse être faite.
Une enquête a aussi été ouverte par le parquet de Vannes en recherche des causes de la mort. On sait aussi que deux personnes ont perdu la vie à La Réunion, victimes de deux accidents cardiovasculaires. Elles aussi ont essayé d'appeler plusieurs fois le SAMU sans avoir accès rapidement à un opérateur. À ce stade, pas d'autres informations sur ces patients, ni sur le quatrième décès évoqué ce matin par Olivier Véran. Une réunion de crise interministérielle a lieu en ce moment, place Beauvau.
Explication signée Agathe Landais pour RTL. Le groupe Orange présente ses plus vives excuses sur Twitter. À noter que les numéros provisoires locaux sont maintenus pour l'instant. Ils sont à retrouver sur le site internet du ministère de l'Intérieur.
Et on y revient bien sûr dans moins de 10 minutes maintenant avec le patron d'Orange, Stéphane Richard, qui est ce soir l'invité d'RTL Soir.
Moment clé aujourd'hui dans le procès Big Malion. Jérôme Lavrieux, l'ancien directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, est entendu cet après-midi. C'est lui qui avait brisé le silence et révélé cette méga fraude de 20 millions d'euros au compte de campagne. Cindy Hubert, il tente de sauver sa peau face à une présidente qui ne lâche rien.
Oui, Jérôme Lavrieux ne veut pas couler seul. Alors c'est le grand déballage. Oui, la campagne est complètement partie en sucette, une dinguerie. Dans ce procès, où personne n'a rien vu, le prévenu détonne. Il reconnaît avoir participé à la fraude. Il raconte une réunion où on l'informe de ce système de fausses factures. Mais la présidente le coupe. Elle revient à la charge. C'est qui, on et quand ? Jérôme Lavrieux pointe du doigt le directeur général de l'UMP, Éric Césari, et Fabienne Ligadze, la directrice financière. Le problème, c'est que Jérôme Lavrieux situe cela après la campagne. Quand tout le monde s'est barré, il reste des ploucs comme moi pour signer. Pour l'accusation, des ordres ont sans doute été donnés dès la mi-mars. Le tribunal projette l'un de ses engagements de dépenses sur grand écran. 5 millions pour des conventions bidons. C'est bien votre signature là, monsieur Lavrieux ? Le prévenu grimace. De toute façon, il faut faire porter le chapeau à quelqu'un et visiblement, j'ai une tête à chapeau.
Cindy Hubert, en direct du tribunal correctionnel de Paris. Autre procès qui a débuté aujourd'hui. Mila, arrivée au tribunal, 13 personnes sont jugées pour avoir menacé cette adolescente de 18 ans sur les réseaux sociaux, menacée de mort après la publication d'une vidéo polémique critiquant l'islam. C'était en janvier 2020.
Sur le front du Covid à présent, c'est un espoir pour économiser des doses et vacciner le plus possible d'ici cet été. On sait que les Français déjà infectés par le Covid n'ont besoin que d'une seule injection. La nouveauté, c'est que vous pourrez vérifier en quelques minutes si vous avez des anticorps et éviter de vous faire piquer une deuxième fois. Odile Pouget, vous nous faites le mode d'emploi.
Eh bien, dans le courant du mois de juin, lorsque vous irez dans un centre de vaccination ou chez votre médecin ou chez un pharmacien pour votre première injection, on vous proposera juste avant un test sérologique rapide, un TROD, une petite piqûre au bout du doigt pour prélever une goutte de sang. Résultat en moins de 15 minutes. Si le test révèle la présence d'anticorps, c'est que vous avez bien sûr été infecté par la maladie, peut-être sans vous en rendre compte, car sans symptômes, dans ce cas-là, pas de rendez-vous pour une seconde injection. Une seule dose suffit et la protection est excellente. Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de Santé.
Nouvelle publication scientifique confirme que la protection vaccinale des personnes qui ont été infectées par le virus est meilleure après une seule dose de vaccin que celle des personnes jamais infectées après deux doses. Et ceci, quelle que soit l'antériorité de l'infection.
Alors, aucun caractère obligatoire à ce test sérologique gratuit, pas besoin d'ordonnance non plus. Ce dispositif pourrait libérer plusieurs millions de doses, si l'on en croit les calculs de l'Institut Pasteur, puisque 22% des personnes en métropole auraient été infectées, alors que les cas identifiés par un test virologique ne représentent que 8% de la population.
Plusieurs millions de doses, ça n'est pas rien. Merci Odile. Odile Pouget, spécialiste des questions de santé, ici à RTL. Vous restez avec nous dans un tout petit instant, ces premières tensions à Martel, tensions entre Emmanuel Macron et les habitants. À tout de suite.
RTL Soir. Amandine Bégaud. RTL Soir, Amandine Bégaud.
Et à 18h10, la suite du journal avec vous, Aude Vernuccio. Et Emmanuel Macron poursuit donc son pèlerinage en région.
Le chef de l'État est aujourd'hui à Martel dans le Lot. Après une pause café en terrasse avec des retraités, il s'est offert un bain de foule. Premier grain de sable au milieu de la carte postale. William Galibert échange très cash.
Oui, pendant deux jours, c'était le bonheur et dans le pré pour Emmanuel Macron. Selfie et applaudissements avec le soleil du sud-ouest en toile de fond. Alors quand des hurlements ont retenti sous les maisons à Colombages tout à l'heure, l'ambiance s'est refroidie instantanément.
Moi j'ai des enfants,
c'est dégueulasse, on en a assez entendu, dégueulasse.
C'est la démocratie.
Laissez-les.
Voilà ce que j'ai à dire.
Ouais.
Un homme crie sa colère, il parle de ses enfants, des gilets jaunes. On ne comprend pas tout, mais le dialogue s'engage tout de même entre l'un de ses amis et le président.
Il y a plein de gens en colère, il faut respecter les gens en colère, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais donc, il faut prendre en compte, les 80%.
Mais bien sûr, ça, vous avez totalement raison. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire en démocratie, c'est l'insulte et la violence.
Ce Tour de France ne pouvait pas se résumer à un enchaînement de cartes postales. Emmanuel Macron le savait très bien. Il sait aussi qu'il devra composer avec les colères, avec les peurs. Il en a d'ailleurs parlé pour évoquer la réforme des retraites. Trop porteuse d'inquiétude, a dit le chef de l'État. S'il décide de la relancer avant la fin du quinquennat, il l'a annoncé, cette réforme des retraites sera fortement modifiée.
William Galibert, envoyé spécial d'RTL dans le Lot.
Les sports, et on part tout de suite à Roland-Garros.
RTL. Roland-Garros 2021.
Ça ressemble à un cauchemar pour les Français. Cette année, plus que 3 Français en lice après la défaite de Gaël Monfils, Isabelle Langer.
Oui, Gaël Monfils éliminé par le Suédois Mikael Immer, 22 ans, 105e mondial, en 4-7, 6-0, 2-6, 6-4, 6-3 pour Immer. Le numéro 1 tricolore semblait diminué physiquement. Il est sorti se faire soigner à la fin du premier set, mais après sa défaite, en conférence de presse, il ne se cherchait aucune excuse. Écoutez-le.
C'est hyper dur parce que beaucoup de mauvais choix, beaucoup de fautes. J'ai pas le bon style de jeu au bon moment. La bonne confiance qui fait que tu vas vraiment taper fort sur le coup droit ou sur le revers, tu vois. Donc, je suis hyper frustré. Je dois mieux faire. C'est un match que je dois gagner en l'état. Michael a été meilleur que moi. Comme j'ai dit, honnêtement, c'est frustrant.
Et si d'aventure Richard Gasquet ne réussit pas un miracle ce soir contre un certain Raphaël Nadal, eh bien ce sera la première fois dans l'histoire du tournoi depuis le début de l'ère Open qu'il n'y aura aucun Français au troisième tour. Alors on mise bien sûr sur les filles et notamment sur Fiona Ferro, opposée actuellement à l'américaine Brady, tête de série numéro 13. Un set partout entre les deux jeunes femmes et 3 partout dans le troisième set. Quant à Roger Federer, il vient de remporter le troisième set et mène maintenant 2-1 face au Croate Cilic, et je vous signale la qualification sans souci de Djokovic qui a balayé l'Uruguayen, Cuevas en 3-7.
Bon, très complet, Richard Gasquet, Raphaël Nadal, ça va quand même être compliqué, Isabelle. Hein,
ça va être compliqué, et puis on souhaitera un bon anniversaire à notre ami Rafa, 35 ans aujourd'hui.
Voilà, bon bah. Merci Isabelle. Isabelle Langer, en direct de Roland-Garros. La bonne nouvelle ?
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Si je vous dis Catherine Deneuve, Matt Damon, Marion Cotillard, Spike Lee, bon, ils ont
quoi? Il y a la musique qui nous aide.
Eh ben voilà,
Cannes.
Ils seront au Festival de Cannes cette année du 6 au 17 juillet. Après une année sabbatique forcée, la sélection officielle a été dévoilée ce matin et Thierry Frémaux, le délégué général du festival, compte bien célébrer le cinéma avec des protocoles sanitaires, mais célébrer quand même.
Ça va être une discipline collective à apprendre, avec laquelle il faudra vivre calmement. Dans l'idée que l'effort que nous faisons là, pour Cannes, c'est celui qu'au fond on doit faire à l'échelle du pays ou de la planète. Le chaos, le chahut, le désordre, la fête, la chanson, la musique, la marge, tout ça fait partie aussi de la légende du festival. Cette année, simplement, il faudra qu'elle tienne compte, cette légende, de ces contraintes-là. Mais après, on espère, oui, qu'on pourra quand même danser. S'embrasser, je ne sais pas, mais en tout cas, arpenter la croisette, se retrouver, se donner des hugs et des abrazo argentins, si on ne peut pas se faire la bise.
Des propos recueillis par Stéphane Boutsock pour RTL.
Merci beaucoup Aude, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres. Dans un instant, c'est Stéphane Richard, le patron d'Orange, qui est notre invité. Il a choisi RTL pour s'expliquer après cette panne hier. À tout de suite.
Amandine Bégaud,
RTL Soir.
RTL Soir, Amandine Bégaud.
18h18 sur RTL et retour donc sur cette panne qui a touché les numéros d'urgence avec le patron d'Orange. Bonsoir Stéphane Richard.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir avec nous sur RTL. Première question, est-ce que ce soir, ça y est, tout est réglé?
Oui. Pour nous, la situation est totalement normale. L'ensemble du trafic sur ces numéros d'urgence, sur l'ensemble du territoire national, fonctionne normalement. Donc les gens peuvent appeler tous ces numéros. Ils seront parfaitement acheminés à leur point de destination.
Il y a l'un de nos correspondants à Marseille qui nous signale quelques bugs en Provence. 95% des appels qui aboutissent, mais il y a 5% encore pour lesquels c'est compliqué.
Oui, j'ai entendu ça. On a parlé de là. Ce matin, on évoquait, un ministre évoquait 10 départements, 11 départements. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, dans nos centres de supervision, nous ne voyons rien de tel. Donc le trafic pour nous est totalement nominal. Après, on parle de numéros d'urgence qui sont très sollicités, vous le savez. Tous ceux qui ont eu un jour besoin de composer ces numéros ont constaté qu'on n'a pas, toujours de réponse.
Oui, ça répond pas forcément tout de suite.
Ça décroche pas toujours. Il y a même d'ailleurs beaucoup de situations où ça ne décroche pas ou longtemps après. Mais ça, c'est pas, je dirais, c'est pas lié à la technique de l'opérateur.
Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé hier ?
Alors, pour résumer les choses, je vais essayer de ne pas faire trop de technique, et, mais d'être le plus pédagogique
possible. On avait parlé d'un problème de maintenance, ça s'est écarté.
Oui. Il y a la cause de l'incident, mais il y a déjà la description de l'incident. Il faut comprendre un peu comment ça marche, parce que c'est bon. Les numéros d'urgence dont on parle sont des numéros qui utilisent la technologie de la commutation, le réseau commuté. Il faut comprendre que dans les télécoms, il y a deux mondes techniques. Il y a le monde commuté, qui est le monde, on va dire, historique, et il y a le monde IP, protocole Internet. Bon. Nous sommes actuellement, depuis quelques années, engagés dans une migration du réseau commuté classique vers le monde IP. Et dans quelques années, tous les réseaux fonctionneront sur le protocole IP. Donc on n'aura plus cette distinction. Bon. Il se trouve que pour l'instant, on a toujours ces deux mondes. Les numéros d'urgence utilisent le réseau commuté historique. Et donc, on a besoin d'avoir une installation, qu'on appelle une interconnexion, qui achemine tous les appels qui vont vers ces numéros d'urgence sur le réseau commuté, d'où qu'ils viennent, réseaux qui viennent du mobile ou du fixe. On a besoin d'avoir cette espèce de boîte qui est en quelque sorte la gare de triage entre...
Donc en gros, je fais le 18... et ce routeur me dirige vers la bonne caserne de pompiers par rapport à là où je suis, c'est ça ?
Oui, parce que la caserne de pompiers en question, sa ligne 18, elle est branchée sur le réseau commuté. Donc on a besoin d'avoir cette installation qui assure en fait l'interconnexion entre les deux univers, celui du monde IP fixe et mobile encore une fois, et ces réseaux commutés. Donc c'est cette installation-là qui a connu un dysfonctionnement important hier.
Quel type de dysfonctionnement, Stéphane Richard ?
C'est rare, je vais vous expliquer. C'est rarissime. Il faut comprendre ça, c'est rarissime. Ça ne nous est jamais arrivé. Donc, parce que ces installations sont extrêmement perfectionnées, extrêmement robustes. Elles sont installées sur 6 locations différentes. Et elles ont toutes été conçues pour assurer le plus haut niveau de sécurité. Donc, je dirais, en théorie, c'est impossible qu'il y ait une défaillance de ce type. Or, elle a effectivement existé. Alors, elle a été très partielle, cette défaillance, parce que il faut aussi prendre la mesure de ce qui s'est passé. Au plus fort de la crise, 8 appels sur 10 en provenance d'un mobile étaient arrivés à destination.
Oui, c'était pas un blackout.
Pas du tout. 80% des appels en provenance d'un mobile arrivés et 90% des appels en provenance d'un fixe. Donc certes, il y a des appels qui ne sont pas arrivés, et ça c'est très ennuyeux et c'est gravissime. Enfin, il y a quand même plus de 80% du trafic qui était acheminé.
Alors la cause, qu'est-ce qui s'est passé, la cause, oui.
Alors, nous parlons avec une armée d'experts d'Orange, mais aussi de notre partenaire équipementier, toujours à la recherche de la cause racine de ce qui s'est passé.
C'est gênant parce que ça veut dire que ça peut se repasser à tout moment, non ?
Non, parce que, si vous voulez, d'abord, on a à la suite de cette crise, mis en place un dispositif de reroutage des appels qui fait que si jamais ça se reproduisait, on n'aurait pas du tout la même conséquence. Mais il faut un peu de temps pour comprendre. C'est complexe, c'est un monde complexe. Il faut un peu de temps pour comprendre. On a déjà écarté un certain nombre d'hypothèses. L'opération de maintenance.
C'est pas une attaque, par exemple.
Non, c'est pas une attaque. Ça, c'est très important. Et deux, l'opération de maintenance, j'ai beaucoup entendu dire que c'est l'opération de maintenance. Non.
Non plus.
C'est pas une opération de maintenance. Il y a eu une opération de changement d'un élément tout à fait périphérique de ce réseau qui est sans rapport avec le problème. Donc, c'est une défaillance logicielle. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une défaillance logicielle ? En gros, c'est une commande classique qu'on fait habituellement sur ce type d'équipement, qui a été, pour une raison que je ne sais pas vous décrire aujourd'hui, mais on le saura, bien entendu, qui a été mal interprétée par la machine et qui a entraîné, en fait, la défaillance de la machine.
Ça peut être un acte de malveillance, par exemple ?
Non, c'est pas un acte de malveillance. C'est pas non plus une erreur humaine, parce que la commande était parfaitement classique et normale. C'est simplement un problème de programmation, un problème logiciel dans le système, dans l'appareil, qui a entraîné ça. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai bien conscience que c'est pas.
On n'est pas très avancé, nous.
Non. Ça circonscrit le sujet. On écarte l'attaque, on écarte l'intervention humaine ou l'erreur humaine. A priori, je veux pas non plus. Mais il faut comprendre qu'il nous faut un petit peu de temps pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Et le gouvernement a demandé un audit suite à ces incidents, ce qui est normal.
Ce qui est tout à fait
normal. Vous êtes fait remonter les bretelles ce matin au ministère. Vous étiez convoqué au ministère de l'Intérieur.
Oui, j'étais convoqué au ministère de l'Intérieur. J'y suis allé, bien entendu, et c'est tout à fait normal, je le comprends très bien. Vous savez, c'est une mission essentielle. Orange est fier d'ailleurs de la remplir, cette mission, et on le fait depuis des années, et donc je pense que c'est une crise suffisamment importante et grave pour que les autorités politiques s'en préoccupent directement, ce qu'elles ont fait. Je suis donc allé au ministère de l'Intérieur, j'ai expliqué exactement la situation d'abord au moment où on s'est parlé, ce que nous avions engagé, puis on a parlé aussi de la suite.
Ce qui a étonné tout le monde, les auditeurs notamment, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de sécurisation. Ces lignes-là sont presque des lignes comme les autres. À l'hôpital, par exemple, vous avez une panne électrique, il y a des groupes électrogènes qui prennent le relais. Là, on a l'impression que rien n'a pris le relais.
Une fois de plus, les équipements dont nous parlons sont des équipements hyper sécurisés. Je vous l'ai dit, ils sont installés sur 6 locations différentes. Donc, admettons qu'il y a un incendie quelque part ou un acte de malveillance, il y a 6 sites différents. Et puis, à l'intérieur même de chacun de ces sites, il y a plusieurs niveaux de ce qu'on appelle de backup. C'est-à-dire que s'il y a une machine qui tombe en panne,
d'autres prennent le relais.
Il y en a une autre qui prend le relais immédiatement. Donc, l'architecture même de ce nœud d'interconnexion a été faite au plus haut niveau de sécurité qu'on puisse imaginer. Maintenant, vous savez, on est dans la technologie, et dans la technologie, on le voit tous les jours, le risque zéro n'existe pas.
Toute dernière question, le gouvernement évoque le chiffre de 3 ou 4 décès liés à cette panne. Le parquet de Vannes, cet après-midi, a annoncé l'ouverture d'une enquête après le décès d'un homme de 63 ans aux urgences. Ça vous semble normal, ça ?
Bien sûr. Ça me semble normal. D'abord, je veux quand même saisir l'occasion que j'ai ici pour présenter les excuses d'Orange pour, je dirais, toutes les personnes qui ont été victimes de ce dysfonctionnement. Celles qui ont essayé d'appeler, qui n'y sont pas arrivées, et a fortiori celles qui, peut-être, en ont été plus directement touchées. Je pense aussi, et je veux le dire, à tous nos partenaires, les SAMU, les casernes de pompiers, les services publics, les préfectures, qui ont été extrêmement réactives et qui nous ont permis aussi de gérer très très vite cette crise. Elles ont été quand même extrêmement efficaces, il faut ici le dire. Maintenant, bien évidemment, il y aura des enquêtes. Nous sommes bien évidemment à la disposition de tous
les
organisations qui font ces enquêtes. La justice peut-être, des enquêtes administratives, on a parlé de l'ANSSI. On y collaborera bien entendu, sans préjuger aussi du résultat de ces enquêtes.
Oui, c'est difficile aussi de montrer si ces personnes auraient survécu ou pas.
Bien sûr,
avec ou sans cette panne.
Il y aura une partie qui sera un peu douloureuse, mais en tout cas, nous sommes désolés, d'abord, vraiment désolés de ce qui s'est passé. On est vraiment sur un problème technique rarissime, je l'ai dit, qui n'est pas lié à un défaut d'architecture. Maintenant, il faut aussi que nous-mêmes, on fasse l'examen de ce qui s'est passé et qu'on en tire toutes les conséquences.
Merci beaucoup Stéphane Richard d'être venu sur RTL ce soir nous donner ses explications. Et tout donc n'est pas encore tout à fait clair sur les causes de cette panne, mais c'est réglé, c'est en tout cas ce que vous nous dites ce soir sur RTL. Merci beaucoup et belle soirée à vous. Dans un instant, c'est l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Ça va ?
Oh bah écoutez, ça va pas mal. J'ai des bonnes nouvelles, moi.
Ah.
Vous avez vu les cas de décrue des cas de Covid. Donc si vous n'êtes pas décédé durant cette dernière année, eh bien vous avez bien fait, car on voit désormais le bout du tunnel. Et vous avez remarqué que plus on va en terrasse, moins il y a de cas de Covid. C'était peut-être ça la solution, on aurait dû aller en terrasse plus tôt, avec une perfusion de Suze. Alors la Suze, c'est de l'avocat Red Bull pour les plus de 70 ans. Ouais, si vous avez moins de 70 ans, vous ne savez pas ce qu'est cette boisson, c'est normal.
Petit avant-goût de Philippe Cavrivière, c'est dans un tout petit instant sur RTL, à tout de suite.
RTL Soir, Amandine Bégaud. RTL Soir, Amandine Bégaud.
Et Aude Vernuccio pour l'essentiel de l'actualité.
Après cette panne des numéros d'urgence, la situation est revenue à la normale sur tout le territoire, assure Stéphane Richard, le patron d'Orange, dans RTL Soir. Il confirme la piste d'un dysfonctionnement rarissime, mais la cause précise n'a pas encore été identifiée. Le ministre de la Santé parle de 3 à 4 victimes, dont un homme de 63 ans, mort à l'hôpital de Vannes. Une enquête est ouverte. Cette tentative de féminicide à Metz, un homme a voulu voulu tuer sa femme en pleine rue cet après-midi. Il l'a poignardé, lui a tiré dessus et a retourné l'arme contre lui. Il est en urgence absolue. Le pronostic vital de la victime, en revanche, n'est plus engagé. Et puis en tennis, le triste sort des Français à Roland-Garros. C'est terminé pour Gaël Monfils. Plus que 3 Français en lice et Fiona Ferro est sur le court, Isabelle Langer.
Et elle a la pression sur les épaules. Un set partout face à l'américaine Brady. Brady, tête de série numéro 13, qui mène 6-5 dans le 3e set. Fiona Ferro au service pour tenter de revenir à 6 partout. Sur le court, Suzanne Lenglen. Mladenovic a commencé son match contre l'Estonienne Kontaveit. 2-1 pour l'Estonienne. Mais Mladenovic va servir. Et puis sur le central, eh bien 2-7-1 pour Roger Federer, qui a fait le break dans la 4e manche face au Croate. Cilic, il mène 3-1.
Isabelle Langer en direct de la Porte d'Auteuil.
Merci beaucoup Aude. À tout à l'heure vers 19h15 pour Il y a un an, il y a un siècle. La météo, Peggy, ce sera pluvieux et orageux hein, demain.
Exactement Amandine, surtout le matin à l'ouest, entre les Pyrénées, le centre, la Normandie, puis en journée du sud-ouest aux frontières du nord avec de fréquentes averses localement orageuses, surtout dans l'après-midi. Attention aux forts cumuls de pluie. La Bretagne et les Pays de la Loire seront à l'écart avec le retour du soleil. Il fera beau également à l'est le matin, plus variable l'après-midi, une petite averse orageuse possible en montagne. Et le soleil résistera uniquement entre Paca et Corse. Tout ça,
bon, c'est pas si mal finalement en fait, quand même.
Si je vous montre la carte, non, c'est pas génial. C'est très
ça
bien.
Ça dépend des moments.
Sur le nord-est, sur le nord-ouest et dans le sud-est. Mmh. Partout ailleurs, ce sera gris, pluvieux, orageux, okay. Et des températures contrastées entre l'ouest et
bon, c'est bon, là,
entre l'ouest et l'est, jusqu'à 29 à Lyon, 23 à Bourges. Je refais ou...
Non, c'est bon.
C'était bien.
Merci beaucoup, Peggy. À tout à l'heure. Comme tous les jeudis, Philippe Cavrivière.
Oui.
Et l'actualité, Philippe, est riche en ce jeudi.
Oh que oui, Thomas Soto. Alors, je sais, c'est pas Thomas, bien. Mais moi, ça me change tout le canevas de ma chronique.
Ah bah oui.
Bon, je vais essayer de m'adapter pour être élégant avec Valentine Becco.
Ouais, c'est ça.
Une femme.
Continuez, vous avez raison.
Une femme à la présentation du 18-20. C'est pas déjà passé la journée de la femme ? Encore une lubie de la direction. Ben voilà, elle est là, elle nous expliquera la direction.
Je crois qu'ils n'ont même pas fait exprès. Voilà. Oui. Donc. Il y a Régis Ravanas en régie, notre
bravo,
patron,
la parité.
Donc on en profite.
Bravo,
hein.
Mesdames. Alors oui, donc Thomas Soto est absent, oui. Les mauvaises langues noteront que ça tombe pile le jour où Roger Federer est au second tour de Roland-Garros. Moi, je ne doute pas de l'intégrité de Thomas, je sais qu'il a des examens médicaux. Je l'ai appelé il y a 30 minutes. Il ne pouvait même pas me parler, il était en salle d'attente. On écoute. Salle d'attente, ouais, il était chez un médecin du sport, visiblement.
Bon, il y avait la télé dans la salle d'attente.
Peut-être, il passe de RTL à RTT, Toto, bon, enfin, la direction appréciera.
Bon, on est là, nous, Philippe. Oui. Parlons à actualité, et d'abord cette panne du réseau Orange. À cause de ça, les numéros d'urgence étaient injoignables.
Oui, Alcaline Bédot, et on a écouté Stéphane Richard. Ça s'appelle un running gag, c'est relou, oui. Mais vous allez voir, ça va être marrant juste à la fin. On a écouté Stéphane Richard, on n'a rien compris. Alors, je vais revenir. Il y a eu des petits soucis sur le 15, le 17, le 18, le complémentaire, le 112. Des usagers auraient eu des difficultés à joindre les services de secours, le SAMU, les pompiers. Et c'est vrai qu'en cas d'AVC, d'hémorragie ou d'incendie, on a le droit d'être un chouille pressé, on a le droit à l'impatience. Un AVC, c'est 4h30 pour intervenir. Après, vous pouvez mettre la personne à la poubelle. Donc... Un AVC, c'est 4h30.
Ça, c'est vrai. Hein.
Et une tarte aux pommes, c'est 20 minutes. Donc, moralité, hier, il valait mieux faire une tarte aux pommes qu'un AVC.
Non.
J'ai essayé d'appeler le SAMU hier. Oui, car je vous le confie, je fais du bénévolat auprès de personnes âgées. Je vous dis tout. Olivier Mazerolle s'était étouffé avec le bouchon.
Non.
Il s'était étouffé avec le bouchon de sa pomme pote. J'ai donc fait le 15.
Arrête.
On écoute. Bienvenue chez Orange. Si vous nous appelez pour un incendie, tapez 1. Si vous nous appelez pour un AVC, tapez 2. Si vous nous appelez parce qu'Olivier Mazerolle a encore avalé le bouchon de sa pompote, tapez 3. À la suite d'un problème technique, nous ne pouvons malheureusement pas vous répondre. Mais nous ne manquerons pas de vous rappeler dans les 72 heures. Bon, en gros, ça s'est passé comme ça. Voilà. Heureusement, personne n'est mort. Hein. C'était que des urgences pas très urgentes, bande de coquinous.
Si, Philippe, 3 ou 4 décès hein, après cette panne.
3 décès, vous dites, Marceline Pénaud ?
Toujours.
Oh, oui, mais ça va, Orange, il s'est excusé, Stéphane Richard. Vous avez 3 nouveaux décès. Bienvenue chez Orange. Si une personne de votre famille est provisoirement décédée à cause de notre panne, Orange a le plaisir de vous offrir son abonnement mensuel fibre optique à 14,40€. soit un total de 172,80 € offerts. Orange vous remercie de votre fidélité. Bon, c'est commerçant de leur part. Et en plus, ils avaient été réglo parce qu'ils nous avaient prévenus dans leur dernière pub.
La technologie ne pourra jamais remplacer la présence de ceux que vous aimez. Orange.
Il est bien parti, le PDG. C'est bon, j'espère qu'il ne nous écoute pas dans la voiture. On l'embrasse, sinon il est en train de faire demi-tour.
Un petit mot de politique, allez, oui. Philippe, on va changer de sujet. Emmanuel Macron est en tournée en région. Il était dans le Lot.
Oui, Mazarine Legault. Emmanuel Macron se jette dans la fosse aux lions. Oui, bon là, c'est des chats. C'est des chatons. C'est des chatons de calendrier. Oui, Emmanuel, il s'est dit, je fais Bourdin-Plenel ou McFly et Carlito ? Je fais les quartiers nord de Marseille, la place Stalingrad ou un village de 12 habitants dans le Lot. Bon, il est allé dans le Lot. Vous avez vu les images ? On dirait le nouveau film de Christophe Baratier. Le tournage des Corées 2 en moins violent. Oh, quand Macron se jette à l'eau, c'est pas direct le grand bain. Ouais. Il va où il a pied, quoi, Emmanuel. Hein. Cette trempette en pédiluve. Hein. Il va pas se noyer sur ce coup-là, Manu.
Bon, encore de la politique avec le républicain Guillaume Pelletier qui a dit du bien de Robert Ménard. C'était ici même, sur RTL. Oui. On a l'impression que les digues tombent entre le RN et les républicains.
Oui, Gwendoline Vetto, les républicains et les RN ne se cachent plus. Ils s'aiment désormais au grand jour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Glenn. Ah, les deux droites ne se draguent pas sur Tinder, non, elles ont matché sur le plateau de CNews. Là-bas, les LR et les RN se mélangent tellement. C'est un peu les chandelles de la droite dure. Faudrait officialiser tout ça et mettre un numéro de téléphone. Tu veux rencontrer les républicains les plus fachos de ta région ? Alors envoie RN au 8-12-12.
Faut que ça marche.
Bah oui, bon. On essaye, on propose des choses.
Un mot de cette polémique autour de la réédition de Mein Kampf qui est désormais disponible hein, en librairie.
Tout à fait, Glantine Greno. Mein Kampf, le nom de l'auteur m'échappe. Et ce n'est pas Victor Hugo.
Non.
Ce n'est pas Marc Lévy, forcément. Non, ce n'est pas possible. Tête et Delinotte, comment il s'appelle Rodolphe Hitler. Voilà. J'ai remarqué, Albertine, j'ai des problèmes avec les prénoms aujourd'hui. Alors, fallait-il republier Mein Kampf ? Fallait-il publier tout court Résilience d'Ophélie Winter ? Faut-il lire Mein Kampf ? Faut-il offrir Mein Kampf ? Mein Kampf est-il une bonne idée cadeau ? Alors, si vous avez un ami pour lequel vous dites « Tiens, ce serait une bonne idée cadeau pour Bernard Mein Kampf », c'est que vous avez des amis bizarres. Et votre ami, s'il ouvre le paquet et qu'il dit « Oh, Mein Kampf, c'est con, je l'avais déjà !» Bon, c'est encore plus gênant. Barivo, hein, trouvez d'autres amis.
Bon, un mot pour terminer sur Roland-Garros.
Avec plaisir, Nougatine Frérot. On embrasse Thomas Soto, que j'ai aperçu. Ouais, il a gardé son casque, on le voyait, de scooter. Ben, déjà, pour pas que Régis Ravanas le reconnaisse. Et puis, pour regarder le match de mon fils, on n'est jamais à l'abri d'une balle perdue avec les Français et son casque de scooter. À 21h, Richard Gasquet affrontera Nadal. Match à huis clos, c'est mieux pour le jeune public, car certaines images de déculottés peuvent choquer. Gasquet, qu'on appelait le petit Mozart du tennis, qui est devenu Richard Klederman, en fait. 16 ans qu'il perd, 16 ans de 16 défaites d'affilée. On va essayer d'aller chercher la 17e branlée, Richard. On croit en toi. Et si Gasquet gagne, je me teins en rose. Voilà,
en rose.
Mardi, en rose.
En rose,
on
mardi.
On est peinard.
On ne prend pas trop de risques. Méfiez-vous.
C'est pas très courageux comme pari.
Non, c'est pas très courageux.
Vous auriez pu parier l'inverse, non ?
C'est vrai. Ah oh, oui, c'est vrai.
Bon, merci beaucoup, Roger. Non, vous vous appelez comme ça. Vous restez avec nous sur RTL dans un tout petit instant. La revanche d'une femme, c'est le titre du livre que publie Dominique Loiseau, la veuve de Bernard Loiseau. Un livre à lire, vraiment, je vous le dis. À tout de suite.
RTL Soir, Amandine Bégaud. RTL Soir, Amandine Bégaud.
Elle a épousé l'un des chefs préférés des Français aujourd'hui. C'est elle qui tient la maison et pas qu'un peu. Dominique Loiseau est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir.
Merci, bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Vous publiez La revanche d'une femme chez Michel Lafon. Pourquoi d'abord ce livre ? Pourquoi maintenant, 18 ans après la disparition de Bernard Loiseau ?
Tout simplement parce qu'en 2003, mon mari est parti. Je n'ai pas baissé les bras. Je voulais quand même essayer pour ne pas regretter un jour de n'avoir pas essayé de sauver son œuvre, c'est-à-dire cette belle maison, sa cuisine, ses équipes aussi qui étaient là. Je ne voulais pas les renvoyer comme ça. Et j'ai décidé d'essayer. Mmh. Hein, parce que je suis quelqu'un qui aime bien les défis et qui aime bien sauver quelque chose. C'est comme ça. Et puis, bah, j'ai tout fait pour. Et puis, nous voilà là, maintenant.
Parce que le job est fait, si j'ose dire, maintenant, vous...
Oui.
Vous...
Maintenant, je peux me dire, on est bien, on est sauvé, on est bien en bonne voie. D'autant plus que maintenant, mes deux filles sont avec moi.
Elles sont
donc
là,
la relève est là.
Intégrer la maison.
Donc la relève est là, donc je peux me dire maintenant c'est parti pour une autre génération et pour un certain temps.
Ce qui est extrêmement frappant, Dominique Loiseau, quand on vous lit, c'est votre détermination, ce poids de la responsabilité. Lorsque, en ce mois de février 2003, vous découvrez Bernard allongé sur le sol dans votre chambre, vous vous dites quasi immédiatement, c'est en tout cas comme ça que vous le racontez, il va falloir continuer. L'évidence, écrivez-vous, s'est imposée à moi. Mais comment vous faites ? Où vous la trouvez cette force ? Vous dites que ce n'est pas de la force, c'est une évidence, mais si, c'est d'une force.
Bah, disons que nous avions une très belle maison, nous avions des enfants ensemble, il ne fallait pas que tout ce qu'il racontait aux enfants, d'un seul coup, mes enfants se disent mais c'était du vent, tout ce qu'il nous a raconté. Donc, j'avais la mission de pérenniser son œuvre, c'est tout. Et surtout, quelle œuvre, hein, c'est une belle œuvre. Et j'avais participé quand même,
bien sûr,
durant une vingtaine d'années, à tout ce que nous avons construit. Donc, c'était tout à fait normal que je participe à un moment donné. Il fallait que je participe après.
Et vous écrivez, pas question de pleurer dans ces moments-là devant les clients.
Surtout pas.
Ce comportement-là, il n'a pas toujours été très bien compris à l'époque. Ça vous a blessé, ça ?
Ben non, parce que il se peut que les personnes comprennent mal, interprètent pas comme il faut. Bon, c'est vrai que je ne suis pas une pleureuse. Mmh. Hein, je pense pas que mes enfants m'aient vu pleurer, et mon mari non plus. Donc,
C'est votre éducation, ça ?
C'est mon éducation.
On riait pas, on pleurait pas, vous disiez.
Voilà, en Alsace, c'était la rigueur, on se tenait bien. C'est comme ça.
Seul le travail ne déçoit jamais, ça c'est votre premier mantra de jeunesse. Le second, c'est une femme doit savoir vivre seule.
Oui.
Ça vous vient de votre maman, ça, je crois ?
Ça vient de ma mère, exactement, et aussi d'une amie un jour qui m'a ressorti ça dans un certain nombre de phrases, on s'amusait sur ces phrases. Et donc tout à fait, ce sont ces deux-là que j'écrivais dans mes cahiers de textes.
Mais une femme doit savoir vivre seule, c'est ce que vous avez montré depuis 2003.
Mais oui.
Et comment ?
Mais oui, mais il peut. N'importe quelle femme qui a épousé quelqu'un peut se retrouver seule du jour au lendemain, après un accident de voiture, après un mari qui s'en va, après. Etc. Donc il faut savoir rebondir.
Dans ce
et
livre,
ne pas sombrer.
Dans ce livre, il y a un vrai message à destination des femmes, de toutes les femmes.
Oui.
Vous dites qu'elles ne se battent pas comme les hommes.
Ben disons que c'est pas qu'elles ne se battent pas, c'est qu'elles n'osent pas se battre. Mmh. Elles n'osent pas. Un homme, quand il y a quelque chose, il fonce. Mmh. Il ne doute pas. Voyez. Alors que les femmes doutent, elles se disent est-ce qu'on va vraiment y arriver ? Est-ce que j'aurai la force ? Elles se posent trop de questions. Au lieu d'y aller et de se donner du mal et de le faire.
Et vous leur dites, allez-y, foncez.
Ah oui, absolument. Il faut y aller, c'est ce que je dis à toutes les élèves des écoles hôtelières. Quand je vais les voir, j'ai toujours mon petit paragraphe spécial pour les jeunes filles, pour les encourager.
Plus de 50%, hein, je crois, de vos employés sont des femmes.
Et dans les écoles aussi, dans les écoles hôtelières.
Pour revenir à Bernard Loiseau, on a beaucoup dit que c'est la crainte de perdre sa troisième étoile qui l'avait tué parce qu'il travaillait comme un acharné. Dans ce livre, vous expliquez avoir découvert qu'il était bipolaire.
Oui, bah disons que je l'ai su après, notamment par Philippe Labrault qui a un peu étudié ce sujet-là. Mmh. Mais au moment où Bernard est décédé, on ne parlait pas de la bipolarité. Mmh. On n'en parlait pas. Et c'est après coup qu'un jour Philippe est venu, quelques temps après, en me disant ben, « Écoute, je pense que Bernard était bipolaire ». Et là, j'ai essayé de comprendre ce que c'était et ça correspondait tout à fait à ce qu'était Bernard.
Il avait des moments de déprime. Un jour, il est même venu en vous disant « je vais me suicider ».
Oui, quelques
vous
jours
avez
avant.
Pas cru, quoi.
Quelques jours avant, le soir, en rentrant, en enlevant sa veste de cuisinier, effectivement, il dit ça. Et puis, bon, bah, je l'ai un peu... Je dis « bon, Bernard, arrête hein. ».
On dit souvent quand les gens le disent, ils ne le font pas.
Exactement. Et puis, tout allait bien. On avait une des plus belles maisons de France. Tout allait bien. Tout était ouvert. La trésorerie était bien. Tout était bien. Il n'y avait aucune raison de le dire. Voyez-vous.
Rétrospectivement, maintenant, vous vous dites qu'est-ce que j'ai manqué ou non, c'est...
Ben écoutez, je ne trouve pas quelque chose qui m'aurait permis d'empêcher cela, vraiment. Et je vous dis, j'ai discuté avec beaucoup, beaucoup de personnes spécialisées dans les tentatives de suicide, les TAS et autres, et ils font tout, ces gens-là, pour que vous ne vous en rendiez pas compte, et ils se fixent ça comme but. Et ils le font.
Une toute dernière question, Dominique Loiseau. À propos de la crise sanitaire, vous avez rouvert une partie de vos établissements et ils rouvriront complètement le 9 juin. Ça leur aurait rendu fou, Bernard Loiseau, de voir ça, d'être obligé de fermer ? Ou pas ?
Pas forcément, parce que je vous signale que nous avions eu la crise du Golfe dans les années 90, où la Nationale 6 qui passe devant chez nous, il n'y avait plus une seule voiture. Donc, on est passé par là et on s'en est bien sorti, hein, on s'en est relevé. Donc là, cette crise-là, on s'en relèvera, je ne me fais aucun souci.
Il serait fier de vous ?
Il serait fier de moi. Et les restaurants, pour les Français, c'est quelque chose d'essentiel.
Essentiel, effectivement, et on a hâte de pouvoir y revenir normalement, si j'ose dire. Merci beaucoup Dominique Loiseau.
Je vous en prie.
D'être venu nous voir ce soir dans RTL Soir, La Revanche d'une Femme, c'est chez Michel Lafond. Lisez-le, c'est une sacrée leçon de vie, je le disais. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
D'être venu nous voir. Dans un tout petit instant, on va retrouver Julia Molcou, la culture de l'actu, bien sûr. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Amandine Bégaud. RTL Soir, Amandine Bégaud.
Et Julia Molcou pour la culture de l'actu. Bonsoir Julia, ça va ?
Bonsoir Amandine, bonsoir à tous, ça va très bien, merci.
Alors le mot du jour, c'est adolescence. Emmanuel Macron l'a annoncé hier, les adolescents de plus de 12 ans vont pouvoir se faire vacciner à partir du 15 juin. À l'occasion pour vous Julia de nous parler de l'adolescence dans la culture.
C'est une espèce de cataclysme, c'est comme si vous êtes pris dans un tourbillon, vous suivez. Je gaspillais mon temps, je gaspillais mon argent, je gaspillais ma vie, et à 18 ans c'est absolument ce qu'il faut faire.
Interview de Françoise Sagan qui date de 1959. Cinq ans plus tôt, le raz-de-marée, Françoise Sagan a submergé la France avec son livre « Bonjour tristesse ». Françoise Sagan avait alors 18 ans, son héroïne Cécile, 17. À la sortie du livre, le roman sera désigné comme un petit chef-d'œuvre de cynisme et de cruauté, faisant de Sagan une créature à part dans la littérature française et de son personnage Cécile un exemple à ne pas suivre. Tout comme Holden Caulfield, le héros de l'attrape-cœur de Salinger, sorti en 51, qui racontait les trois jours d'errance de ce jeune homme dans les rues de New York après s'être fait virer du lycée. Et alors que Salinger rêvait d'écrire un livre dont on voudrait que l'auteur devienne un ami, quelqu'un à qui on puisse passer un petit coup de fil quand on a envie de parler, et bien après la sortie du livre et l'immense succès qu'il va rencontrer, Salinger quitte New York, s'isole, ne répond à aucun média et surtout refusera toute sa vie que l'attrape-cœur soit adapté au cinéma.
Dans tes classes de lycée, y a tes rêves.
Qu'ils soient légers ou tout à fait bouleversants, on ne compte pas les livres, les pièces et les films dont les héros sont des adolescents. Les deux sœurs, Anne et Frédéric, sont insolentes et travaillent très mal à l'école dans Diabolomonte, dont on entendait la bande-son de Diane Curis.
Que tu caches et qu'on condamne.
Et la chanson est difficile, bien sûr. Harry Potter est le seul adolescent qu'on connaisse qui soit content d'entrer en pension. Roméo aime Juliette. Chabert, Zéréba et Sophie se souviennent avec émotion de leurs années lycée et de leur copain Thomasie dans Le Péril Jeune de Cédric Clapiche. Dans LOL, Lola, 16 ans, ne supporte plus sa mère, pourtant incarnée par Sophie Marceau, la reine des ados et des booms. Et puis l'adolescence au cinéma, c'est aussi Charlotte Gainsbourg, L'Effronté de Claude Miller. Et parce que la thématique n'a pas fini d'inspirer les cinéastes, eh bien, mercredi 16 juin sort 16 printemps, le premier film de Suzanne Lindon, elle-même à peine sortie de l'adolescence puisqu'elle n'a que 21 ans et elle partage l'affiche de son propre film avec Arnaud Valois.
Je suis un peu lassée de tout ça, de mes copains, de mes copines, de ma routine. Je m'en ai avec les gens de mon âge. Pourquoi vous me regardez comme ça ?
Je vous regarde, c'est tout. Je comprends.
Et je traîne au bord de la... Est-ce que l'adolescence, Julia, a inspiré les chanteurs ?
Alors là, je vous ai gâté.
Je suis allée dans mes archives. J'ai déjà trouvé un grand classique, bien sûr, c'est Eddie Mitchell, qui à 14 ans ne veut plus aller à l'école.
Je viens tout juste d'avoir mes 14 ans. Je veux plus d'école. Devenu grand, je te promets, je te gagne plein d'argent.
Moins connu, enfin le titre, parce que Lynn Renault est très connue. Et bien justement, Lynn Renault, elle, sait très bien ce que les filles attendent à 15 ans.
15 ans,
C'est l'un de les filles deviennent jolies. Tu as mis du noir à tes
ça,
yeux.
J'ai jamais entendu.
Non mais personne.
Tu aimes ton père, tu aimes ta mère, mais tu les appelles mes vieux.
Bon, et puis j'en profite puisque Thomas Toto n'est pas là. Nous ne terminerons pas avec Jean-Jacques Goldman. Je ne suis même pas allée regarder. Non, en revanche, non, je me suis intéressée à un autre cas, celui d'une femme qui ne se remet pas tout à fait du jeune amant de 18 ans avec qui elle vient de passer une nuit.
Bah oui.
Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été.
Un jour, il fera des phrases d'imitation de Dalida, les yeux qui louchent et les mains dans les cheveux.
Mais vous ferez ça, non ferez ça ouais, d'ici la fin de la saison, vous nous faites ça, Julia. Ah, vous avez pris l'engagement. Attention, je vais le dire à Thomas. On va quand même faire un petit lien. Merci beaucoup.